Lizzie présente Petite créature de Mélanie Golding. Lue par Flora Brunier. À la mémoire d'Amber Baxter, née Fink, 1979-2012. Peak District, Angleterre. 17 août. Le lieutenant Johanna Harper se trouvait sur le viaduc avec les autres policiers. Sur la rive opposée, de l'autre côté de la vaste étendue du réservoir, une femme semblait sur le point d'entrer dans l'eau. Elle serrait deux nouveau-nés dans ses bras. Harper se tourna vers son supérieur. « À quelle distance sont nos hommes ?» La rive où se tenait la femme était cernée d'une zone densément boisée. Même d'aussi loin, Harper pouvait voir le sang sur ses jambes.
« Ils sont encore trop loin !» répondit Trupp. « Ils tentent toujours de se frayer un chemin jusqu'à elle. »
L'hélicoptère les survola dans un grondement infernal, agitant la surface du réservoir. Dans un haut-parleur, une voix beugla.
« Éloignez-vous de l'eau !»
L'engin stationna tel une menace au-dessus de la minuscule silhouette de la mer, poursuivant son vacarme assourdissant. Mais les policiers à son bord ne parviendraient pas à l'arrêter. Il n'y avait aucun endroit où atterrir en toute sécurité, et l'appareil ne pourrait pas descendre suffisamment pour manœuvrer un treuil. À travers ses jumelles, Harper vit la femme se laisser tomber, assise, sur le limon craquelé, le visage levé vers le ciel, étreignant toujours les enfants. Peut-être n'irait-elle pas jusqu'au bout, tout compte fait. La policière repensa à ce que la vieille dame lui avait dit. Elle devra les mettre à l'eau si elle veut récupérer ses propres bébés. Ou plutôt sous l'eau, les immerger complètement. Quand elle regarda de nouveau, la femme n'était plus assise sur la rive. De l'eau désormais jusqu'aux genoux, elle continuait de s'enfoncer. Sans hésiter, la policière ôta ses chaussures, escalada la rambarde du viaduc, et se prépara à plonger. Chapitre 1. L'enfant n'est pas le mien comme l'était le premier. Je ne parviens pas à le bercer, ni à le porter comme un père, ni à le serrer contre mon cœur. Pourtant, il dort dans le berceau de mon bébé et se tient assis sur la chaise de mon bébé. Et la lumière du ciel, où elle s'en est allée, transfigure ses cheveux blonds. James Russell Lowell, The Changeling, extrait. 13 juillet, 20h10. Elle n'avait plus mal, c'était tout ce qui comptait désormais. La douleur l'avait quittée, emportant avec elle la peur et la sensation de mort imminente. Tout avait disparu en l'espace de quelques secondes, comme par miracle. Elle était sur le point de s'endormir quand la tête de Patrick apparut sous une charlotte verte, lui rappelant pourquoi elle était là. Elle allait accoucher de ses jumeaux. L'anesthésie marquait la fin des épouvantables contractions, mais également le début d'une procédure d'extraction au forceps dont l'issue était encore incertaine. Le premier bébé était coincé dans le canal utérin. Au lieu de s'abandonner à cet état cotonneux et de s'assoupir, elle n'avait pas fermé l'œil depuis 36 heures, elle tenta de rester attentive à ce qui se passait autour d'elle. Le visage de l'obstétricienne surgit à côté du sien, masque tiré sous le menton. Ses lèvres bougeaient, mais il y avait comme un problème de synchronisation avec le son. Un effet d'écalement, se dit Lorraine, et de l'épuisement. Le monde avait ralenti. Elle fronça les sourcils. La femme la regardait, mais lui semblait lointaine. « Elle me parle. Je dois écouter. » « Bien, Madame Tranter. » À cause de l'anesthésie, vous ne pouvez plus sentir les contractions. Alors je vous dirai à quel moment il faudra pousser, d'accord ?
Lorraine forma un O avec sa bouche, mais l'autre ne lui laissa pas le temps de répondre.
Poussez !
Elle eut l'impression qu'on tirait sur son corps tout entier. Elle ignorait si elle poussait ou pas. Elle fit une grimace d'effort, tendit les muscles de son cou, puis se dit « À quoi bon ? Ils n'en sauront rien si je ne pousse pas. Si je faisais un petit somme, plutôt. » Elle ferma les yeux.
« Allez, poussez !»
La femme tira de nouveau et Lorraine sortit brusquement de sa langueur. Quand elle rouvrit les yeux, tout était net de nouveau,
le monde avait retrouvé une vitesse normale, ou peut-être un peu plus rapide. Elle retint son souffle, attendit le cri. Lorsque le son s'éleva enfin, grêle et aigu, manifestation affaiblie d'un traumatisme, elle se mit à pleurer à son tour. Un geyser de larmes, elle les avait tellement contenues. Patrick serra sa main.
« Je veux voir, » dit-elle.
On posa l'enfant sur la poitrine de sa mère, mais sur le dos, son derrière contre le menton de Lorraine, si bien qu'elle ne vit que des jambes de grenouille et un minuscule bras qui s'agitait en l'air. Le père se pencha vers eux, regarda son fils en plissant les yeux, se mit à rire, puis à pleurer, glissa son doigt dans la petite paume.
« Vous ne pouvez pas le tourner ?» dit-elle.
On ne l'écoutait pas. L'obstétricienne lui demanda de pousser encore et tira une nouvelle fois. On ôta le premier bébé de sa poitrine pour y poser le second. Cette fois, elle réussit à le tourner elle-même dans le bon sens. Elle le tint dans ses bras et regarda son visage. L'enfant l'étudia en retour, avec une moue en cœur et des yeux mi-clos révélant un bleu profond. Même si les jumeaux étaient génétiquement identiques, les parents s'étaient attendus à de légères différences. C'étaient deux individus distincts. Deux beaux garçons, songea-t-elle avec une jovialité un peu forcée, tout en se disant « Je peux dormir maintenant, non ? Personne ne s'en rendra compte. »
« Riley !» décréta Patrick, caressant le visage de Lorraine d'une main, effleurant celui du bébé de l'autre.
« D'accord ?»
Elle se sentit acculée. Elle avait pensé qu'ils attendraient quelques jours avant de leur donner un nom, le temps de mieux les connaître. C'était une décision si importante. Et s'ils faisaient les mauvais choix ?
« Riley ?» répéta-t-elle.
« Oui, je crois. »
Son mari s'était déjà redressé, téléphone à la main. « Et l'autre ?»«
Rupert ?»«
Rupert ?» Ce nom ne figurait même pas sur leur liste. Essayait-il de la doubler, de profiter de son état de torpeur et de faiblesse physique pour l'influencer ?
Pas question.
Non,
trancha-t-elle d'une voix un peu trop forte.
Il s'appelle Morgan.
Patrick plissa le front et se tourna vers l'enfant en question que le pédiatre examinait.
Tu es sûr ?
Il remit son téléphone dans sa poche.
Vous ne pouvez pas rester longtemps, dit l'infirmière à Patrick quand le lit fut enfin en place.
Elle ouvrit le rideau vert d'eau d'un coup sec. Lorraine voulut protester. Elle avait espéré disposer d'un peu de temps pour prendre ses marques avec les bébés avant que son mari ne soit mis dehors. Plusieurs centaines de mètres de couloir séparaient la salle d'accouchement de la maternité. Peut-être même des milliers. Patrick avait poussé le berceau à roulettes où était installé un des jumeaux et l'infirmière s'était chargée du lit occupé par Lorraine, qui tenait l'autre enfant dans ses bras. La petite procession avait avancé dans un bruit de ferraille, sans un mot, sous la lumière jaune des néons. Au début, Lorraine s'était dit que Patrick aurait pu proposer à l'infirmière d'échanger avec elle et de manœuvrer lui-même la charge la plus lourde, mais elle s'était vite rendue compte que c'était préférable ainsi. De toute évidence, la femme savait ce qu'elle faisait. Ce petit gabarit avait utilisé tout son corps pour faire contrepoids et empêcher le lit de tanguer dans les tournants, puis, avec une maîtrise impressionnante, s'était perché sur le marchepied et avait fait glisser l'engin dans un des quatre box vacants, celui près de la fenêtre. Le lit n'avait produit qu'un léger cliquetis en touchant le mur. Avec Patrick, il y aurait sûrement eu de la casse. L'infirmière mit le frein, s'écria « Et voilà !» puis adressa un nouvel avertissement au papa en lui désignant l'horloge sur le mur d'en face.
« 15 minutes !»
Elle s'éloigna dans un crissement de semelles. Les jeunes parents regardèrent leur bébé.
« Lequel tu as ?» demanda Patrick.
Lorraine fit tourner le bracelet autour du délicat poignet de l'enfant endormi dans ses bras. Les mots « bébé 30 heures numéro 1 » étaient inscrits au marqueur bleu.
« Morgan, » répondit-elle.
Patrick se pencha au-dessus du berceau où reposait l'autre nouveau-né. Le portrait craché de leur père, dirait-on plus tard. Pour l'heure, Lorraine ne voyait pas la moindre ressemblance entre cet homme adulte et ses petits bouts d'être chiffonnés. Les garçons se ressemblaient, indéniablement, comme deux gouttes d'eau, ou plutôt une seule goutte dupliquée. Riley avait le même visage fripé que son frère, les mêmes longs doigts, les mêmes ongles étrangement parfaits, la même expression lorsqu'il bâillait.